ce charme souverain de la voix humaine, nous l'aurons sauvé de l'oubli.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire arrachée au passé, mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Bonjour à tous. Retour aujourd'hui aux sources de la musique enregistrée, au temps où il était soudain devenu possible d'entendre jaillir musiques et chants en l'absence de leurs interprètes grâce à de nouveaux supports, cylindres, mais aussi bientôt les premiers disques, les fameux 78 tours. Une histoire qui raconte quelques-unes des mutations accomplies en Occident, mais pas que, entre la fin du 19e siècle et le tournant des années 1950, date à laquelle le micro-sillon relèguera aux oubliettes le 78 tours. Révolution technologique, émergence des classes moyennes et urbaines, diffusion des loisirs et de la société de consommation, où l'on croisera dans un voyage à travers le globe des lanternes dans des sous-sols humides, des inventeurs ruinés, de la cire amolie dans des studios surchauffés et un fox terrier mélomane. Aujourd'hui, le monde tourne à 78 tours minutes. Le 24 décembre 1907, en milieu d'après-midi, un petit groupe d'individus patiente dans le hall marbré de l'Opéra de Paris, réalisation majestueuse de l'architecte Charles Garnier, inaugurée par Napoléon III autant de décennies plus tôt. Ce ne sont pas des spectateurs. À cette heure-là, d'ailleurs, le bâtiment est fermé au public. Il s'agit d'autre chose, une affaire d'importance. Preuve en est, dans cette petite assistance, il n'y a que des hommes, arborant hauts de forme, barbiches ou moustaches taillées selon la mode en usage. Leurs épouses sont sans doute restées au chaud dans leur foyer à superviser la préparation du dîner de Noël. Vers 15h30, cette petite troupe en redingote sombre se met en mouvement et, à la suite du bibliothécaire maison muni d'un lourd trousseau de clés, ils suivent dans un trajet labyrinthique, galeries et couloirs, avant de s'engager à pas prudents dans les escaliers humides conduisant aux entrailles du bâtiment, précisément à son troisième sous-sol. Là, à la lueur incertaine de quelques lanternes, une étrange cérémonie a lieu. Deux lourdes urnes de métal, sortes de marmites hermétiquement scellées, sont transportées et installées dans un caveau creusé à même la paroi du bâtiment. Elles renferment un trésor. Mais quoi? De l'or? Les joyaux de la République? Les secrets d'une conjuration? Mieux encore, le témoignage de la grandeur scientifique et artistique de ce début de siècle. Des disques sonores. Les grandes voix de l'époque, récemment gravées sur disque, une technologie toute récente et qui n'en finit pas d'étonner et dont tous pressentent qu'elle intéressera également le monde du 21e siècle. C'est que les 48 disques en question, faits de résine et appelés gramophones, ont été légués par un Américain, un certain Alfred Clark, directeur de la compagnie française de gramophones, à une seule condition, que ses voix ensevelies reposent en paix pendant 100 ans. L'instant est solennel. Sitôt les urnes déposées, accompagnées d'un appareil de lecture et de notices d'utilisation, une grille est scellée et une lourde porte métallique se referme sur le trésor. « Il semblait que nous assistions à nos propres funérailles », écrivit le lendemain un chroniqueur du Figaro. 5 ans plus tard, en juin 1912, deux nouvelles urnes seront déposées aux côtés des premières, renfermant là encore 24 disques. Sur l'un d'eux, le comédien Firmin Gémier, alors directeur du Théâtre Antoine, se fendra d'un petit couplet lyrique.
N'oublions pas, messieurs, que c'est en France que naquit, il y a quelques années, l'idée d'une bibliothèque phonographique. Idée que toutes les autres nations se sont fait un devoir d'imiter depuis lors, reconnaissant ainsi l'intérêt scientifique d'une pareille collection. Et c'est l'Académie nationale de musique qui, avant tout autre, réalisa cet ingénieux projet. N'était-ce pas légitime? Où les voix endormies auraient-elles trouvé meilleur et plus sûr accueil? Il appartenait au temple de la musique dramatique française de tenter ce miracle, de conserver à nos arrière-petits-fils ce qu'il y a de plus fugitif au monde, ce qui n'a ni corps ni durée, la voix humaine.
Carono met l'air de Gilda de l'acte 1 de Rigoletto, l'opéra de Verdi, interprété par l'Australienne Nellie Melba, l'une des grandes divas de la fin du 19e siècle. La pêche Melba, c'est elle. Dans cet enregistrement sur gramophone effectué à New York en mars 1907 et consigné à la fin de cette même année dans l'une des urnes enfouies sous l'opéra de Paris. Ces disques, exhumés à la faveur de travaux effectués en 1989 à l'Opéra Garnier, seront, conformément aux vœux de leur donataire, entreposés ailleurs jusqu'à l'échéance du délai centenaire, écoutés seulement en 2007. C'est qu'on ne plaisante pas avec les serments, d'autant qu'en 1907, il en allait également de la grandeur de la France, dépossédée de la paternité de l'invention par le hold-up du félon américain Thomas Edison. Remontons maintenant le cylindre. « Revenons dans l'Europe de la deuxième partie du 19e siècle. Cette Europe conquérante, sûre d'elle-même, qui, comme sa cousine américaine, est prise d'une frénésie de croissance, de progrès, d'invention, bouillonnant, sous l'influence de sa nouvelle bourgeoisie, d'un désir d'accélérer la marche du monde. Signe des temps, les horloges s'y multiplient et bientôt la deuxième révolution industrielle verra l'avènement, entre autres, de l'électricité, du téléphone, de l'automobile, du cinéma et donc du disque. Mais pour l'instant, enregistrer de la musique n'est pas un enjeu. Certains inventeurs planchent en revanche et depuis un certain temps sur la possibilité scientifique de capter, afin de mieux pouvoir les retranscrire, discours ou conversations, et ce dans toutes leurs nuances, quel qu'en soit le débit. Autrement dit, de pouvoir écrire aussi vite que l'on parle. Cela s'avère finalement bien compliqué et une solution jugée satisfaisante est trouvée vers 1850, plus simple, un système de notation qui deviendra la sténographie. Quant à l'aventure de l'enregistrement du son, de nombreux inventeurs continuent de s'y pencher. Parmi eux, vers 1857, un Français oublié, Léon Scott de Martinville, qui imagine le phonotographe permettant de tracer les ondes sonores d'une voix sur du papier enduit de noir de fumée. Mais c'est 20 ans plus tard, en 1877, que tout s'accélère. À Paris, Charles Cros, un poète et physicien, dépose fin avril à l'Académie des sciences, dans un pli cacheté, une courte note dans laquelle il décrit le principe d'un procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par Louis. Mais son paléophone, la voix du passé, reste une idée de papier et Charles Cros échoue les mois suivants à en faire financer le développement. Or, entre-temps, aux États-Unis, un autre chercheur passionné de technique et qui travaille depuis des années déjà sur la téléphonie développée par Graham Bell parvient, lui, à achever un appareil du même principe et à lancer les premiers essais. Cet homme, c'est Thomas Edison.
Mary had a little lamb, it squeaked white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Edison, qui, après s'être enregistré lui-même récitant une comptine enfantine, fait illico protéger sa machine par un brevet le jour de Noël 1877. Edison bâtit son invention, le phonographe. Quant à Charles Cros, il a beau tenter de faire valoir la similitude avec son invention à lui et l'antériorité de cette dernière, il est débouté de tous ses recours, sombre dans l'alcool et meurt dans l'anonymat et la misère 10 ans plus tard. Mia totiera, dorem Cielo Turchino, le ciel bleu en napolitain, gravé en 1915 par celui qui deviendra la première star de la musique enregistrée. J'ai nommé le ténor italien Enrico Caruso qui, après quelques années de triomphe sur les plus grandes scènes mondiales, avait gravé son premier gramophone dès 1902 dans une chambre d'hôtel de Milan avant d'enregistrer près de 500 disques jusqu'à sa mort en 1920. Mais n'allons pas trop vite et prenons d'abord le temps de quelques rappels lexicaux. Au début, donc, avait été le phonographe, invention de Thomas Edison, et qui permet d'enregistrer et de restituer les sons gravés sur des cylindres d'étain, puis bientôt de cire. Breveté en 1878, le phonographe d'Edison est diffusé notamment à la faveur de l'Exposition universelle de Paris en 1889. Edison, qui offre l'un des tout premiers exemplaires du continent à Gustave Eiffel, dont la tour du même nom vient d'être inaugurée. Eiffel qui s'amuse, grâce à cette curieuse machine, à enregistrer quelques bribes de paroles de ses proches, familles, amis, mais aussi de sa propre voix, comme dans cet enregistrement du 4 février 1891, peut-être le plus ancien réalisé en France, et dans lequel, tendez l'oreille, ça crachote, il s'adresse au phonographe comme un messager, invitant des amis à venir prendre le thé chez lui.
Tu vas avoir à répéter les paroles de Charmant Gerson. Et surtout, tu leur diras bien que nous votons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant plus que ces paroles enregistrées serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. 4 février 1891. Le cylindre sera conservé précieusement.
Ces cylindres deviennent rapidement des objets de curiosité dans les métropoles géantes qui se forment. Londres rassemble alors 6,5 millions d'habitants, New York 3,5, Paris 2,5 millions. La constitution de classe moyenne engendre alors une soif de nouveaux loisirs. À cette époque apparaît d'ailleurs le cinématographe en 1895. Quant aux cylindres, ces tout nouveaux procédés d'enregistrement qui permettent de délivrer 2 minutes de surprise, on se met à y graver non plus seulement de la parole, mais aussi des musiques. On peut les entendre dans les cafés-concerts, puis dans les music-halls qui se multiplient, comme au Moulin Rouge en 1893. Ils résonnent aussi dans les grands restaurants, les foires, les fêtes foraines ou aux jardins d'acclimatation. Toutefois, les cylindres, ça n'est pas très commode, c'est compliqué à entreposer et, au début du moins, ça n'est pas reproductible. Musiciens et chanteurs se retrouvent à devoir s'exécuter autant de fois que l'on veut générer d'exemplaires. Celui qui va trouver une solution à ce problème, c'est l'autre génial inventeur des débuts du disque, Emil Berliner. Né en Allemagne, puis émigré aux États-Unis en 1870, il avait travaillé, lui aussi, pour la compagnie de Graham Bell, avant, en 1887, de perfectionner le phonographe et de mettre au point sa propre machine, le gramophone. Le rouleau, le cylindre sur lequel était gravé le son, se trouvant remplacé par des supports plats, des disques, joués d'abord à 100 tours minute, mais qui bientôt trouvent leur vitesse de croisière à 78 rotations toutes les 60 secondes. Outre qu'ils permettent dorénavant de stocker 4 minutes d'enregistrement, 2 fois plus que les cylindres d'Edison, ces disques sont à même d'être dupliqués, ouvrant la voie à une fabrication industrielle, et hop, le 78 tours s'apprête à chavirer la planète.
Oh,
Enregistrement sur 78 tours, le russe Fedor Chaliapine pour ses Bateliers de la Volga, enregistré en 1922, chanson traditionnelle décrivant à travers le sort des haleurs de barge le long d'un fleuve, la souffrance des miséreux de l'Empire russe. Chaliapine, d'extraction modeste, qui, grâce à la puissance de sa voix de basse, était devenue l'une des idoles de la Russie tsariste. Toutefois, sa situation s'était dégradée après la révolution de 17 et la guerre civile. Pourtant élevé au rang d'artiste du peuple, il était de plus en plus vu comme un élément bourgeois, de sorte qu'après la confiscation de sa propriété, il avait décidé de partir s'inventer ailleurs. D'autant qu'il jouissait, depuis son premier concert donné en 1901 à la Scala de Milan, d'une glorieuse réputation en Occident. Finalement, en 1921, autorisé à se rendre à l'étranger pour une tournée, il était resté en exil, se fixant en France. Là, il avait profité jusqu'à la fin de ses jours de nombreuses sessions d'enregistrement. Les disques, donc, qui, après quelques essais effectués par Berliner à partir de caoutchouc, adoptent comme support, à partir de 1897, la gomme lac. Shellac en anglais, c'est d'ailleurs sous ce nom que le monde anglo-saxon désigne les 78 tours. Une gomme obtenue à partir de la sécrétion d'un insecte asiatique mêlé à de l'ardoise en poudre et un peu de lubrifiant. Bientôt, les fabricants de gramophones s'évertuent à modifier l'apparence même du lecteur, le faisant ressembler à un gros meuble, histoire de le fondre dans les intérieurs bourgeois et domestiques. Le 78 tours qui n'en finit pas de se diffuser à travers le monde, au Japon, mais aussi, comme ici en 1918, en Perse, dont le chat s'est depuis longtemps piqué de cette nouvelle technologie. Alors évidemment, le son des débuts est de piètre qualité, mais songez à l'étonnement que ces enregistrements produisaient sur les publics de l'époque. Pour la première fois, l'écoute de la musique se trouvait dissociée de son interprétation en direct. Les antiques boîtes à musique ou autres orgues de barbarie se retrouvent vus comme des jouets pour enfants. La musique reproductible passe dans une autre dimension. Cette fascination, certains capitaines d'industrie s'évertuent à la monétiser. plusieurs entreprises se créent. La Columbia Phonograph Company en 1888, qui, 10 ans plus tard, innovera et inventera le disque double face, permettant d'y loger 2 chansons au lieu d'une. Et puis il y a la Berliner Grammophon Company, fondée par Emil Berliner lui-même en 1895. Et puis il y a la Victor Talking Machine Company et son fameux logo d'un chien, un fox terrier, dont le museau pointe vers le pavillon d'un gramophone. Et puis enfin, il y a Pathé, la française, qui compte alors parmi les grandes. Entre toutes ces entreprises, la concurrence est acharnée. L'image de ce titre enregistré au Cameroun, sans doute dans les années 40 ou 50, les représentants des grandes firmes de disques se mettent rapidement à sillonner le monde pour dénicher des artistes locaux à faire enregistrer. Dès le début du siècle, des filiales sont ouvertes un peu partout. Pathé, par exemple, s'installe à Moscou, à Bruxelles, puis à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à Milan, Londres, à Odessa, jusqu'en Chine. Suivront rapidement Kiev, Budapest, Calcutta, Varsovie, Singapour, Alger, Hong Kong. Ses concurrents, Victor, Columbia ou Gramophone, en font autant. Beaucoup des clientes de ces disques sont des Occidentaux exilés, mais aussi, de plus en plus, les membres des classes supérieures locales. Avant même le début de la Première Guerre mondiale, le phénomène du disque se mondialise. Mais c'est aux États-Unis que le marché du disque devient rapidement le plus important. 500 000 appareils de lecture en 1900, 2,5 millions en 1910. Pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la demande européenne se tasse, la croissance s'amplifie aux États-Unis à un rythme effréné. Ainsi, pour la seule année 1920, il s'y vend 100 millions de disques. C'est qu'à la différence de l'Europe, où le gramophone reste l'apanage de la petite et de la moyenne bourgeoisie, auprès de qui il supplante les ventes de partitions de piano, aux États-Unis, le gramophone se propage très rapidement dans les classes moyennes et les catégories populaires. Les ouvriers qualifiés, par exemple, peuvent ainsi presque tous s'offrir un poste de TSF, une automobile et un gramophone. À crédit, certes, et bientôt cela posera des problèmes. Musicalement, la nature de la musique écoutée par les Américains change. Le blocus maritime instauré lors de la Première Guerre mondiale avait privé un temps le pays des importations de disques européens. Or, comme le relève Ludovic Tournès dans un excellent article intitulé « Du phonographe au MP3 », cette période correspond à l'arrivée à maturité d'une musique nationale américaine. Mais les Américains se tournent vers leurs propres artistes. Or, la période de la guerre a vu les grandes migrations des Noirs des États du Sud vers les grandes villes du Nord. Ces Noirs ont emporté avec eux le jazz ou le blues qu'ils se mettent rapidement à enregistrer. Même si le tout premier enregistrement d'un disque de jazz en février 1917 est le fait d'un groupe de blancs, l'Original Dixieland Jazz Band, un quintet de la Nouvelle-Orléans. Mais dans la foulée, le jazz est surtout l'affaire des musiciens noirs. Kid Horry, Jelly Roll Morton, King Oliver, Louis Armstrong. Et puis il y a le blues avec Bessie Smith. En 1925, nouvelle révolution technologique. L'enregistrement électrique remplace l'enregistrement acoustique. Fini les immenses cornets devant lesquels il fallait brailler ou jouer de l'archet dans des studios surchauffés pour permettre à la cire de rester molle. Désormais, le son enregistré n'est plus capté mécaniquement, mais passe par un micro qui transforme les ondes sonores en impulsions électriques. Victor, Columbia, His Master's Voice, tous les grands groupes s'y convertissent, d'autant que l'enregistrement électrique améliore sensiblement la qualité de l'écoute. Et heureusement, car les disques transmettent parfois des missives de la plus haute importance. France Culture, Jukebox, ce soir, la révolution du 78 tours.
Wake up, you drowsy sleeper. Wake up, for it's almost day. How can you stand to sleep and slumber when your old true lover's going away? Once I lived in old Virginia, to North Carolina I did go. There I spied a nice young lady, oh, her name I did not know. Her hair was black and her eyes were sparkling, and on her cheeks were diamonds red. And on her breast she wore a lily, all the tears that I did shed. When I'm asleep, I'm dreaming about her. When I'm awake, I see no rest. Every moment seems like an hour. Oh, the pains that cross my breast. Oh, Molly dear, go ask your mother if you my bride can ever be. And if she says no, come back and tell me, and I no more will trouble thee. Oh, no, I'll not go ask my mother, for she lies on her bed at rest. And in one hand she holds a dagger to kill the man that I love best.
Oh, Molly chérie, va donc demander à ta mère si nous pourrions nous fiancer. Si elle dit non, reviens me le dire. Je ne te dérangerai plus jamais. Le chanteur Kelly Harrell pour ce Oh, Molly dear, go ask your mother, enregistré à New York en 1926. New York que le chanteur originaire de Virginie avait rejoint tardivement, y enregistrant nombre de titres pour Victor Records ou bien pour la RCA. Sa carrière, toutefois, se trouvant brutalement interrompue par l'arrivée de la crise. La crise, celle de 1929, dans laquelle, tandis qu'un certain Stanley Roper capte au plus près le carillon de Big Ben, le monde s'apprête à basculer. Le krach de Wall Street d'octobre entraîne une récession brutale et généralisée. les États-Unis, qui avaient succombé à la folie du crédit et de la spéculation, s'enfoncent dans la Grande Dépression. Les entreprises ferment par dizaines de milliers, poussant des millions d'Américains au chômage, chassés de leur logement vers d'immenses bidonvilles et autres soupes populaires. Musicalement, alors que jusque-là, il se vendait, rien qu'aux États-Unis, 150 millions de disques par an, loin devant l'Angleterre, l'Allemagne ou la France, les ventes s'effondrent. Dans les années 30, on se met alors à fabriquer des disques en carton, bien moins chers que les autres. Ce sont les Hits of the Week en carton souple et monoface, publiés chaque semaine et vendus dans les bureaux de tabac. Pendant ce temps, le blues se fait l'écho de ce déclassement. Autrefois, je vivais comme un millionnaire, dépensais mon argent, je m'en fichais, j'emmenais mes amis en virée, on achetait de l'alcool, du champagne, du vin. Et puis j'ai commencé à chuter, si bas que je n'avais soudain ni amis, ni endroit où aller. Si jamais je remettais la main sur un billet $1, je m'y accrocherais jusqu'à ce que l'aigle au verso me sourie. Tant personne ne te connaît plus quand tu es à terre. Nobody knows when you're down and out, standard de blues, repris en 1929 par la chanteuse Bessie Smith.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time. Champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. No.
En 1929, Bessie Smith, personne ne te connaît plus quand tu te retrouves à terre. Le disque, lui, pourtant, malgré la crise et la Grande Dépression, n'est pas encore tout à fait enterré. Et après quelques années de marasme, il reprend d'ailleurs du poil de la bête. Les grandes majors anglo-saxonnes réagissent et fusionnent. Le groupe radiophonique RCA prend le contrôle de Victor. Quant aux Britanniques de Gramophone, ils s'unissent à Columbia pour créer le groupe EMI, Electric Musical Industries. France aussi, le pays subit la crise de plein fouet. Les ventes de disques dégringolent de 10 millions d'exemplaires vendus en 1929 à 3 millions à peine en 1938. Pathé, jadis le fleuron national, mais qui avait mal négocié le passage des cylindres au disque plat, se retrouve englobé au sein du nouveau label EMI, mais il perd de plus en plus de son autonomie. Les gramophones restent chers et puis il y a la concurrence croissante de la radio qui, dans le même temps, multiplie par 10 le nombre de ses auditeurs, équipant en 1939 un foyer français sur deux. La radio qui diffuse des programmes musicaux mêlant aux grandes dames des puristes, musique savante, chansons populaires, jazz ou blues. Pourtant, le disque reste incontournable. Les musiciens, quel que soit leur registre, ne peuvent l'ignorer. Une nouvelle génération de chanteurs de variété prend la relève des Maurice Chevalier ou des Fréhel, qui jadis avait été la première chanteuse à graver son 78 tours. Cette nouvelle génération est incarnée notamment par Charles Trenet, touche-à-tout talentueux qui, à moins de 20 ans, débarque à Paris depuis son sud natal. Embauché au studio de cinéma Pathé comme accessoiriste, il se lance finalement dans la chanson, en duo d'abord avec le chanteur suisse et zazou Johnny Hess, signant chez Pathé, avant, quelques années plus tard, d'aller frapper à la porte de Columbia pour signer le début de sa carrière solo, inauguré avec l'enregistrement en 1937 de ce qui deviendra son premier succès.
Soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin.
Écrit pour un film musical « Je chante » par Charles Trenet, sorti en décembre 37 et où, derrière des couplets légers et sautillants, un homme épris de chant et de liberté se retrouve emprisonné et finit par se pendre pour revenir sous la forme d'un fantôme. Malgré l'affaissement du marché du disque en France dans l'entre-deux-guerres, c'est l'époque où émergent ceux qu'on appelle les discophiles qui collectionnent les disques comme leur père collectionnait les timbres-poste. Depuis la mise au point de l'enregistrement électrique, la musique sur disque gagne l'attention des amateurs, des puristes de la musique qui jusqu'alors ne juraient que par les concerts. Des revues spécialisées apparaissent. C'est aussi alors que s'approfondit la pratique du travail en studio avec ses ingénieurs du son spécialisés ou ses directeurs artistiques. Ces années sont celles de la chanson populaire, mais aussi de l'essor du jazz, importé par les soldats américains en 1917. Du jazz, mais aussi du blues, comme celui enregistré à New York en juillet 1933 par la chanteuse Eva Taylor et le groupe de son mari, Clarence Williams.
What's the matter with you fellas here sitting on your sleep? Ain't you gonna play no music? You done drink up all my liquor here tonight? I got to sell this tub of chitlins here. And that catfish must go. Come on there, boy, wrap your lips around that clarinet and get good and low. Now that's more like it. That's more like it. Where's them lowland singers at?
Mélange de blues et de vaudeville, cette Organ Grinder 1933 par la chanteuse Eva Taylor et le groupe de son mari Clarence Williams. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la musique, on le sait, se trouve récupérée par les diverses propagandes. En Allemagne, musiciens et compositeurs juifs sont interdits. Les dirigeants de Deutsche Grammophon eux-mêmes doivent quitter le pays précipitamment. Aux États-Unis, l'industrie se retrouve réquisitionnée pour soutenir l'effort de guerre. L'armée, elle, produit à tour de bras des disques qu'elle envoie sur les différents fronts afin de soutenir le moral de ses boys. On les appelle les V-disques, V pour Victory. Du jazz avec Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman ou Glenn Miller, mais aussi des stars de la variété comme Louis Jordan ou Frank Sinatra. Mais ces disques constituent une exception à la grève qui touche alors l'industrie du disque. Depuis 1942, les musiciens regroupés au sein de l'AFM, le principal syndicat, ont décrété une grève des enregistrements afin de manifester contre la dégradation de leur rémunération. Ils dénoncent la concurrence jugée déloyale de la radio, mais surtout des jukebox qui, partout, ont remplacé les concerts, réduisant le nombre des cachets. Cette grève durera 2 ans jusqu'en 1944. Profitons-en pour aller voir ailleurs. Et pourquoi pas, tiens, du côté de la Grèce, où depuis des années, la chanteuse Stella Askil déroule son rebetiko, cette forme de musique populaire. En 1952, elle enregistre la chanson qui suit, intitulée « Karabiberim », racontant l'histoire d'une fille d'un harem d'Istanbul, une certaine Karabiberim, dont le nom en turc signifie « le poivre noir » et dont s'éprend un homme, lequel l'incite à fuir à ses côtés. Ça tombe bien, un bateau les attend pour les aider en cela. Allez, viens, Karabiberim.
Αμάνες με σεκέρι μου, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Καραμπιμπέρι μου, μπιμπέρι μου, μπιμπέρι μου, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Θα έρθω απόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια, κι ας με το φεγγίσουμε μες στη γειτονιά.
Καραμπιμπέρι μου, μπιμπέρι μου, μπιμπέρι μου, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Μια βαρκούλα και τους δυο μας προσβαίνει στο γυαλό. Αμάνες μερσέ κερί, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Καραμπιμπέριμ, μπιμπέριμ, μπιμπέριμ, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Θα έρθω απόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια, κι ας με το φεγγίσουμε μες στη γειτονιά.
Καραμπιμπέριμ, μπιμπέριμ, μπιμπέριμ, άσε πια τα πλούτη.
Καραμπιμπέριμ, αμάνες περσέ κερίμ, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Καραμπιμπέριμ, μπιμπέριμ, μπιμπέριμ, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
Θα έρθω απόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια, κι ας με το φεγγίσουμε μες στη γειτονιά.
Καραμπιμπέριμ, μπιμπέριμ, μπιμπέριμ, άσε πια τα πλούτη και τον Ιπραήμ.
La chanteuse Stella Askil pour ce Karabiberim, également désigné sous le nom des ruelles d'Istanbul, enregistré en 1952. À cette époque, pourtant, les jours du 78 tours sont comptés. C'est que ces 4 petites minutes maximum de musique par face constituent un frein à sa propagation, autant qu'à la créativité musicale. N'oublions pas qu'on est alors en pleine année jazz, et notamment bebop, lequel réclame du temps pour dérouler sa logorée. Par ailleurs, le 78 tours, même enregistré électriquement, pâtit d'une piètre qualité sonore. Les ingénieurs des grands groupes travaillent sur le format de l'avenir. Et l'été 1948, le label Columbia a sorti le premier micro-sillon 33 tours, fabriqué en vinyle, une sorte de plastique, permettant surtout d'écouter plus de 20 minutes de musique par face. Jusqu'à la fin des années 70, le micro-sillon, qu'il soit 33 ou 45 tours, deviendra le standard de l'industrie mondiale du disque, connaissant très rapidement des taux de croissance de l'ordre de 10 à 20% par an. Quant aux vieux 78 tours, ils continueront toutefois à être produits dans nombre de pays émergents, et ce jusque dans les années 60 et 70, comme en Thaïlande, où ils accompagnent l'essor du Loksang, ces chants racontant la pauvreté des régions rurales et leurs déconvenues sentimentales, à l'image de ce Pa Hom Yu Chai, cette couverture du chœur signée Narum Nam Chai et enregistrée en 1965.
ใจกระไรนักจนผู้รักจะพาวาวุ่นขาดทนเมตตาและการุณมาทำให้อุ่นแสนหุ่นไหวใจปลูกขอไว้รอปลูกหลอกเราคอยเจ้าสาวลวงเลี้ยงเพียงไกลแม่คุณเรรวนอยู่ยวนใจสงสารคนไทย กินไม่ลงและนอนไม่หลับนอนแดดเดียวใครจะไปว่าคุณคนเดียวและการดายอดเสน่หาคือผ้าห่มหัวใจอกเอ้ยหนาวสวงจนง่วงเหงาไม่มีผู้เคล้ามาเอาใจใส่ที่กอดคุณทำทุนจะอุ่นใจ
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Aujourd'hui, le monde tourne à 78 tours minutes. Une émission préparée avec Lily Kornert, Georgi Daskalov à la documentation musicale et l'aide de Catherine Péchin à la bibliothèque. À lire notamment du phonographe au MP3, un riche et passionnant article signé de l'historien et musicologue Ludovic Tournès pour la revue Autrement. À la technique aujourd'hui, c'était Manu Couturier, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
ทำอย่างไร